Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Winterhaus.
France Inter, le 18-20.
Il n'y a pas qu'un virus dans nos vies et nos quotidiens. Les virus informatiques ont aussi fait florès pendant le confinement. La cybercriminalité ne s'est jamais aussi bien portée. La mafia, elle aussi, partout dans le monde, a bien profité du Covid. Et c'est ce qu'on voit dans un instant ensemble. Le bruit du monde est en Tunisie ce soir, avec les maires élus démocratiquement il y a 2 ans. Des élections historiques dans le pays de la première révolution arabe. Et bien ces maires démissionnent en cascade et vous comprendrez pourquoi. Puisque c'est la dernière semaine d'Un jour dans le monde, Caroline Gillet a choisi de vous donner des nouvelles de tous les gens confinés ou déconfinés qui nous ont confié leurs journaux sonores à travers le monde. 18h50, le monde selon Trump et Loïc Loris ce soir avec le week-end pourri réellement de Donald Trump. 18h55, le monde d'après, Jean-Marc Four en Biélorussie, un pays qu'on n'approche pas quasiment aussi secret que la Corée du Nord et qui pourtant, nous verrons ça dans un instant avec Jean-Marc. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bertrand Monnet. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'EDEC, titulaire de la chaire Management des risques criminels. On a tous reçu, Monsieur Monnet, juste après le confinement d'ailleurs, des alertes de certaines grandes enseignes nous disant « attention, on a été piraté, attention, faites attention à vos données ». Est-ce que le Covid a réellement changé l'ampleur des actions de cybercriminalité ?
Oui, très clairement, la cybercriminalité, alors c'est difficile d'avoir une vue précise, exhaustive hein, de tout ça, mais la cybercriminalité a augmenté de 30 à 40%. Le nombre de cyberattaques a augmenté de 30 à 40%. Mais la cybercriminalité, c'est une galaxie. Mm-hmm. Donc en gros, il y a 2 grandes tendances qu'il faut bien identifier quand on parle de Covid, ce que la crise a amplifié. La première, c'est ce qu'on appelle le phishing. Hein, le nombre d'emails frauduleux a explosé. Mm-hmm. Alors ça, c'est des emails qu'on a tous reçus.
Ça, c'est pour nous, les particuliers, on va dire.
Voilà, c'est pour les particuliers. Alors ça vise à vous amener sur un site internet pour que vous achetiez un masque, un abonnement Netflix à 5 euros, etc. C'est des fraudes basiques qui font que, une fois que la victime est attirée sur le site en question, le site frauduleux, soit le hacker lui vole ses coordonnées bancaires s'il s'agit d'acheter quelque chose, soit son objectif, ça peut être d'injecter sur son ordinateur un virus qui va servir à autre chose, qui va servir à infecter l'ordinateur de son entreprise, par exemple, ou qui va servir à faire de son ordinateur un fantôme, qui va être un maillon d'une chaîne de centaines de milliers d'ordinateurs, ce qu'on appelle des botnets, qui vont permettre à des hackers de conduire des attaques par déni de service. C'est typiquement ce qui est arrivé malheureusement aux hôpitaux de Paris au début du confinement au mois de mars. Donc c'est des ordinateurs, des centaines de milliers d'ordinateurs infectés comme ça dans le monde, pas par des utilisateurs qui ont cliqué sur des liens ou vers des pièces jointes frauduleuses.
C'est intéressant que vous citiez l'hôpital là en l'occurrence, parce qu'il paraît que les cibles ont été beaucoup, les centres de santé effectivement, beaucoup plus qu'avant. Alors ça existait déjà, mais beaucoup plus qu'avant, notamment ce qu'on appelle les ransomware, c'est-à-dire si vous ne nous donnez pas tant d'argent sur en bitcoin, on vous donne pas la clé pour vous sortir de ça, etc. Alors,
et effectivement, hein, tous les organismes de santé, les hôpitaux, les organismes de sécurité sociale, en gros, c'est à peu près une attaque. Une attaque tous les 3 jours qui touche un centre de santé dans le monde. Donc c'est très très important. Mais ceci étant, les ransomware ne touchent pas les hôpitaux. Hein, les ransomware, ils touchent avant tout les entreprises. Et ils rentrent dans les entreprises par différents canaux. Alors encore une fois, ça peut être par les ordinateurs ou les smartphones de salariés qui font pas très vraiment attention à ce qu'ils font. Mais le drame, quand on parle de cybercriminalité aujourd'hui, et ça c'est pour demain, parce que le phishing, tout le monde a compris maintenant, voilà, le faux masque, le faux gel alcoolique, etc., les gens ne se font plus avoir, enfin ou très peu, mais le vrai problème c'est l'avenir. Les entreprises ont dû téléporter tous leurs employés en quelques heures, et aujourd'hui, ces employés-là, ils ont accès aux serveurs de leur entreprise à distance. Et pour ça, ces entreprises-là n'ont d'autre choix que d'utiliser 2 plateformes, qu'on appelle le RDP, c'est un peu technique, Remote Desktop Protocol, et le VPN, le réseau privé virtuel. Et ces 2 plateformes, elles sont faciles à pirater par des hackers.
D'autant que quand tout le monde est parti, comme vous dites, en télétravail un peu du jour au lendemain, ça veut dire que chacun utilise son propre matériel informatique, le plus souvent, en téléchargeant des logiciels et autres, et tout ça est nettement moins sécurisé que dans les entreprises, évidemment.
Alors, une partie des salariés ont pu partir avec des ordinateurs de leurs entreprises, mais ça change pas grand-chose, et effectivement, une autre partie utilise des ordinateurs domestiques, des ordinateurs de la maison, en gros, hein, sur lequel se connectent des enfants, etc., qui téléchargent leurs devoirs, par exemple, qui téléchargent des jeux aussi, parce que le confinement, ça a été long. Bref, donc ces ordinateurs-là peuvent être infectés, et du coup, une fois qu'ils se reconnectent au serveur de l'entreprise de leurs parents, bah, effectivement, ces virus-là peuvent migrer. Alors, il y a des pare-feux, il y a des antivirus dans les entreprises, mais qui peuvent être saturés. par le nombre de virus qui arrivent. Et puis enfin, même si les utilisateurs respectent les protocoles, utilisent un ordinateur sécurisé, etc., c'est pas pour autant que les pirates ne peuvent pas rentrer. Parce qu'encore une fois, ces plateformes qui permettent à quelqu'un de se connecter à distance au serveur de son entreprise, elles sont piratables. Il y a des dizaines de tutoriels sur YouTube qui vous expliquent comment pirater un mot de passe et rentrer sur ces plateformes qu'utilisent les entreprises, que les boîtes n'ont d'autre choix que d'utiliser.
Vous avez parlé d'une augmentation de 30 à 40%, ce qui est énorme. Il y a Europol qui a lancé une alerte pour mars 2020 en disant que la cybercriminalité avait jamais été aussi importante et aussi élevée. Est-ce qu'on sait si le profil de ces cybercriminels pendant le Covid a changé? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des gens qui s'amusent, pardon, hein, j'y mets des guillemets, mais qui n'ont rien de mieux à faire et qui vont chercher en faisant du phishing, etc. À chaque fois, ce sont des petites sommes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont nettement mieux organisées? Est-ce qu'on a essayé d'un État à l'autre, parce que chaque État était déstabilisé, d'appuyer sur la cybercriminalité avec de vrais mercenaires chargés de ça?
Alors les hackers, c'est une galaxie. Il y a de tout. Vous avez effectivement des gens qui ont un profil assez faible techniquement, qui sont des opportunistes. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être très qualifié pour mener une cyberattaque. Il y a des tutoriels sur le Darknet. Vous avez même des tutoriels aujourd'hui sur Internet, comme je le disais. Il y a des gens qui sont beaucoup plus structurés, qui fonctionnent en réseau, mais qui là aussi sont guidés par l'argent. Alors ceux-là, ils existaient et ils continuent encore une fois à frapper. Et puis, il y a aussi une dernière catégorie qu'on appelle les state-sponsored groups. En fait, ce sont des mercenaires, des hackers qui sont payés par des États et par des services de renseignement pour attaquer des cibles qui généralement sont des cibles étatiques et pour le faire en laissant le moins de traces possible. C'est visiblement ce que l'État australien semble dénoncer en désignant la cible.
Aujourd'hui, puisqu'ils ont, ils ont été victimes d'une attaque. Non, ils ont admis avoir été victimes d'une attaque, parce qu'en général, on le fait plus tard.
Voilà. Mais le problème quand on parle de ce type de hacker, c'est que il est extrêmement difficile de savoir. De connaître leur origine, c'est-à-dire attribuer une cyberattaque à tel groupe de mercenaires du web, entre guillemets, qui travaillent pour tel État, c'est très très difficile. Alors ils ont des protocoles, des modes d'action qui peuvent les identifier, ils peuvent laisser quelques lignes de code, entre guillemets, quelques traces qui font qu'on a des suspicions, mais c'est très difficile de dire que c'est la Chine qui attaque l'Australie ou que c'est le Pakistan qui attaque la Grande-Bretagne, en gros. Mais effectivement, c'est une dimension, non plus de cybercrime, mais de cyberguerre. On voit que le Covid peut aussi générer ces tensions interétatiques sur Internet.
Est-ce que ça veut dire que désormais on est à ce niveau-là? On est donc à un autre niveau désormais dans la période post-Covid, on va dire? Ou est-ce qu'on risque de revenir à un étiage un peu comme celui que nous avons quitté, maintenant que les entreprises, que les États ont repris une activité quasiment normale et donc aussi les pare-feux et toutes les sécurités nécessaires?
Le risque n'a jamais été aussi grand. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette distanciation du travail, ce télétravail fait que les employés doivent se connecter à distance. Or, les supports de connexion à distance, ils sont hackables, ils sont piratables. La seule solution, c'est quoi? C'est l'hygiène digitale. Premièrement, pour que les employés, les salariés qui sont connectés sur ces serveurs à distance...
L'hygiène digitale, c'est quoi? C'est des gestes barrières?
Tout à fait, c'est exactement ça.
À comprendre pour l'ordinateur comme pour se laver les
mains. Absolument, c'est changer son mot de passe régulièrement, comment on se désinfecte les mains, avoir un mot de passe solide, parce qu'encore une fois, c'est facile à craquer. Et puis pour les entreprises qui utilisent ces plateformes, ces failles de sécurité, elles sont connues des éditeurs de plateformes qui les patchent, entre guillemets, qui les corrigent et qui mettent à disposition de tous leurs clients des versions mises à jour. Mais force est de constater que toutes les entreprises ne les mettent pas à jour. Et attention, ça peut faire très mal, parce que quand on parle de ransomware, ce sont des virus qui cryptent des données. Une fois que les données sont cryptées, les hackers ou le hacker va demander une rançon très importante à l'entreprise. Dernièrement, c'est des entreprises comme Électricité du Portugal.
EasyJet.
Alors, EasyJet, c'est un vol de données. C'est pas une demande de rançon.
9 millions de clients, c'est beaucoup.
9 millions de données qui ont été volées. Pour l'électricité du Portugal, c'est 10 millions d'euros en bitcoin qu'on demande à l'entreprise, tout simplement pour lui restituer l'usage de ces données. Et auparavant, mais ça c'était avant le Covid, Bouygues Construction, qui de la même façon a été visée par une attaque qui a bloqué ses serveurs. Et là aussi, la rançon demandée, je ne sais pas, absolument pas s'ils l'ont payée, mais la rançon demandée, c'était 10 millions d'euros, donc c'est important.
Est-ce que ça veut dire que les entreprises désormais, y compris dans leur réorganisation post-Covid, doivent aussi avoir une vraie réorganisation de ce type-là pour prévenir des attaques à venir?
C'est un changement de paradigme. C'est très clairement... Mais il ne faut pas imaginer que ce sont des choses très très compliquées. Encore une fois, il s'agit de distiller cette culture de l'hygiène digitale chez tous les utilisateurs qui sont connectés à un serveur d'entreprise, premièrement, et il s'agit de systématiquement mettre à jour toutes les mesures de sécurité qui sont publiées par les éditeurs de ces plateformes de connexion à distance. C'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, mais encore une fois, il y a beaucoup, entre guillemets, de trous dans la raquette qui font que les hackers aujourd'hui s'en donnent à cœur joie. Moi, les hackers avec qui j'échange, l'un d'entre eux récemment me disait le virus est une immense opportunité pour moi. Ils travaillent jour et nuit parce qu'il, malheureusement, ils s'en donnent à cœur joie.
Alors, Bertrand Monnet, il y en a d'autres qui s'en donnent à cœur joie aussi. Ce sont, j'allais dire, la mafia. Non, ce sont les mafias. En fait, on a vu là aussi que la nature avait horreur du Covid, il y a une chose qui est extrêmement simple, que toutes les mafias savent faire. Ça veut dire, attendez, vous êtes une entreprise, vous avez du mal, bougez pas. Moi, je vais vous aider, moi, je vais vous donner de l'argent. Est-ce que c'est comme ça que ça commence dans ces grandes organisations-là?
C'est comme ça, parce que ces organisations-là, une mafia, c'est une entreprise criminelle, finalement. Et c'est les pires des opportunistes. Le problème d'une mafia, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de le blanchir. Selon la COFAS, l'assureur institutionnel français, à peu près une entreprise sur quatre à la surface du monde risque de faire faillite. Ce dont ont besoin les boîtes, c'est quoi? C'est de la trésorerie. Et face à elles, qu'est-ce qu'elles ont dans les pays où les mafias sont présentes? Pas partout, mais quand même, les mafias sont présentes dans très nombreux pays.
On parle du Mexique, on parle de l'Italie, on parle du Japon,
on parle du Mexique, Oui, tout à fait, de la Chine, on parle de nombreux pays asiatiques, nombreux pays européens, la Bulgarie, la Roumanie, et puis attention, les mafias peuvent avoir entre guillemets des sièges sociaux dans ces pays-là et opérer partout dans le monde, surtout quand on parle de rayonnement économique. Donc l'emprise mafieuse, elle est très forte. L'argent qui est blanchi chaque année dans le monde, selon le FMI, c'est 800 à 2700 milliards de dollars. C'est 1 à 3% du PIB mondial. C'est énorme. Donc les mafias, elles ont cet argent-là, en volume, sachant qu'en plus, cet argent-là, elles le gagnent avec une rentabilité extrême. La rentabilité du trafic de cocaïne, elle peut aller jusqu'à 8000% pour les cartels colombiens. Donc, ils ont un volume d'argent disponible à l'investissement qui est énorme. Et face à elles, ces mafias-là, dans ces environnements où elles opèrent, elles ont des entreprises qui sont en train de mourir et qui ont besoin de trésorerie. Donc il est possible, et ça s'est déjà produit pour toutes les crises précédentes, notamment en Italie, mais pas seulement, que certaines entreprises en mal de liquidité, finalement, leur ouvrent leurs portes. Alors le processus, il est simple. Comme vous le disiez, c'est quoi? C'est du prêt à taux usuraire. C'est en gros, vous avez besoin de cash. Aucun problème, on va vous en donner, mais vous remboursez à 6 mois avec un taux de 40%.
Et ensuite, pieds et poings liés, de toute façon, en plus, après, avec ceux qui vous ont prêté de l'argent.
Tout à fait. Donc l'entreprise de fait passe sous le contrôle mafieux. Alors là, il faut pas fantasmer, parce qu'il y a deux façons pour une mafia de faire ça. À petite échelle, ça se fait en cash. Les mafias gagnent leur argent en cash généralement. Donc elles peuvent injecter du cash dans la trésorerie de certaines entreprises, mais il faut pas alerter le policier, il faut pas alerter le contrôleur fiscal. Donc les boîtes qui sont susceptibles d'accepter ce cash, c'est des entreprises qui utilisent beaucoup de cash et qui sont légitimes à le faire. C'est la restauration, c'est la grande distribution, etc. Mais c'est pas, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas légitimes à utiliser du cash. Donc chez ça pourrait paraître suspect. Et donc, ce que font les mafias, parce qu'encore une fois, les mafias, c'est des entreprises qui font du criminel, mais qui en même temps contrôlent, possèdent des centaines et des centaines d'entreprises légales. Donc, en fait, elles utilisent ces entreprises qu'elles possèdent déjà pour prêter de l'argent à ces entreprises qu'elles visent, dont elles veulent prendre le contrôle, en faisant de la fausse facturation, tout simplement, en faisant des fournisseurs fictifs, et petit à petit, toutes ces boîtes qui acceptent cet argent criminel deviennent un peu des fourmis ouvrières du crime organisé. Et ça c'est dramatique.
Est-ce que ça veut dire que la pénétration, l'intrusion de ces mafias-là à l'intérieur de la vraie économie, de l'économie réelle, a accéléré vraiment pendant cette période de Covid?
Tout à fait. La crise, toute crise, on l'avait déjà vu pour la crise de 2008, mais là c'est encore plus fort, cette crise, l'impact économique de cette crise risque d'être encore plus fort, malheureusement. Toute crise est un accélérateur de croissance pour le crime organisé, parce que ça lui permet de contourner le principal obstacle qui est le blanchiment. Là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des aspirateurs à argent sale qui se mettent en route. Le problème, alors c'est dramatique pour ces boîtes qui vont passer sous contrôle mafieux, mais pas seulement. Il faut bien raisonner en termes d'entreprise augmentée, entre guillemets. Une entreprise qui passe sous pavillon mafieux, si on peut parler comme ça, évidemment ça se saura pas, mais cette entreprise, elle a des fournisseurs, cette entreprise, elle a des clients. Or, un mafieux, les gens qui arrivent à ce niveau-là dans une organisation mafieuse, ce sont les plus violents et ce sont les plus intelligents. Et c'est des gens qui tuent pour l'argent, ce sont des extrémistes. Donc quand ils ont pris le contrôle d'une boîte de transport, d'une boîte d'agroalimentaire, peu importe, c'est pas pour la gérer en bon père de famille, c'est pour maximiser leurs profits sans aucune éthique. Quand ils prennent le contrôle, par exemple, d'une entreprise qui fait du beurre, qu'est-ce qu'ils vont faire immédiatement? J'ai travaillé sur ces cas-là à Naples, sur des cas de la Camorra. Qu'est-ce qu'ils font immédiatement? Cette boîte-là, ils vont l'obliger non plus à faire du beurre de façon licite, mais à faire du beurre frelaté. Et à le vendre comme si, évidemment c'était du beurre de très haute qualité. Donc ils vont pousser toutes les entreprises dont ils ont pris le contrôle, soit à faire de la fraude, soit à faire de la contrefaçon, qui est un sujet terrible. La contrefaçon, c'est 7% des produits vendus chaque année dans le monde, où ils vont les utiliser pour extorquer d'autres entreprises.
Ce que vous nous dites, Bertrand Monnet, est-ce que c'est valable? Alors ça marche pour la mafia italienne, bien sûr. Est-ce que ça marche pas plus encore pour les mafias mexicaines et pour d'autres? Parce que au fond, nous, dans nos sociétés, et l'Italie c'était le cas aussi, on a un système, un filet de sécurité qui est suffisamment important pour essayer de renflouer les sociétés avant qu'elles ne se cassent totalement la figure. Ce qui est beaucoup moins le cas au Mexique et ailleurs. Donc est-ce que ça marche particulièrement dans ces autres pays-là, ou même en Italie en effet, où il y a quand même ce filet de sécurité, la mafia a réussi à s'introduire?
Alors l'exemple italien, il est dramatique parce que les mafias, il y en a quatre, elles sont présentes depuis tellement longtemps que malgré la force de l'état de droit italien et malgré le fait que la police italienne lutte de toutes ses forces contre le crime organisé, il est tellement implanté que voilà. Mais effectivement, la faiblesse de l'état de droit favorise très clairement ce processus-là. Quand on parle de Mexique, c'est pas neutre, hein. Le président d'état mexicain, il y a quelques mois, il a quand même avoué qu'il ne pouvait pas lutter contre le cartel de Sinaloa. Donc, c'est oui, effectivement, quand l'état de droit est faible, ça accélère cela. Mais encore une fois, attention, hein. C'est pas seulement à l'État de contrer cette pénétration mafieuse. Les entreprises, elles ont leurs responsabilités. Elles doivent savoir avec qui elles font affaire. Alors, le secteur bancaire, il s'étanchéifie de plus en plus face à l'argent sale, parce qu'il y est obligé par la loi. Mais toutes les entreprises qui travaillent dans ces pays-là, elles ont un devoir aussi, hein, éthique, et je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, de savoir avec qui elles travaillent, de vérifier qui il y a derrière leurs fournisseurs, derrière leurs clients, etc., pour faire en sorte que ce cancer mafieux, qui est en pleine accélération encore une fois, soit stoppé. Et ça, c'est aux entreprises de le faire.
Bertrand Monnet, il va y avoir bientôt une grosse distribution d'argent, le plan de relance européen qui est une somme absolument considérable. Est-ce qu'il y a une crainte qu'une partie de cet argent-là soit détournée de cette manière-là, par certaines mafias? On pense à l'Italie, mais pas seulement. On pense à certaines mafias de pays de l'Est, etc. Est-ce que le risque est réel?
C'est, à mon sens, c'est une quasi-certitude. Pourquoi? Bah, l'histoire le dit, hein. De toute façon, le détournement de subventions européennes par les mafias italiennes, c'est très très courant. Mais il n'y a pas qu'en Italie, encore une fois, hein. Des entreprises qui sont passées sous contrôle mafieux ou qui ont été créées par des mafias, on en trouve beaucoup en Bulgarie, on en trouve en Roumanie, et puis on en trouve dans d'autres pays européens qui sont contrôlés par des mafias étrangères. Ce qui est vraiment central dans cette capacité des mafias à détourner des subventions, c'est qu'elles contrôlent et qu'elles possèdent réellement de vraies entreprises. Hein, et qu'à ce titre-là, elles peuvent faire candidater ces entreprises de façon frauduleuse à l'obtention d'aides européennes. Donc toutes ces aides qui sont en train d'être mises en place, je pense qu'elles vont, de façon marginale, mais elles vont effectivement bénéficier aussi à des entreprises mafieuses et de façon très très cynique.
Merci beaucoup Bertrand Monnet. On a bien compris qu'il fallait instaurer une sorte d'hygiène digitale. Donc ne lavez pas votre ordinateur, mais changez votre mot de passe. En revanche, merci 6000 fois de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Tunisie où les maires démocratiquement élus, il y a 2 ans, démissionnent en cascade. Caroline Gillet reprend des nouvelles de ceux qui nous ont offert leurs journaux sonores ces dernières semaines. Le monde selon Trump et le week-end raté réellement de Donald Trump à Tulsa et pas seulement. Et puis dans le monde d'après, Jean-Marc Four nous parle d'un endroit où on ne va jamais, la Biélorussie. Il y a tout de suite, le tour de la planète continue. Il passe par les États-Unis avec Black Puma, Old Man sur France Inter. et Oldman sur France Inter. Le bruit du monde ce soir est en Tunisie. La Tunisie où les premiers maires élus démocratiquement de l'histoire du pays espéraient pouvoir changer le quotidien de leurs concitoyens. La décentralisation, c'était l'une des principales revendications de la révolution de 2011. Bilan, 2 ans après ces élections historiques, des démissions en cascade, le blues des maires tunisiens et de leurs citoyens dans 2 municipalités. Reportage signé Maureen Mercier.
Mohamed Slim Merzi est bien content d'avoir retrouvé ses gosses, comme il les nomme. Pédiatre et désormais ex-maire de la Marsa, ville de la banlieue de Tunis. Il a démissionné pour retrouver son vrai travail.
La décentralisation en tant que telle a fait rêver beaucoup de monde, moi compris. Moi, j'étais convaincu, personnellement, que la décentralisation et une véritable politique de proximité pouvaient redonner confiance aux gens. Tout ça, c'est du vent. Voilà que j'ai pris mes responsabilités de dire salut et merci, en espérant que ce soit un cri d'alarme qui soit écouté par les uns et par les autres.
En 2 ans, ils sont plus d'une trentaine à avoir, comme lui, jeté l'éponge. Le problème, sur le papier, les municipalités sont censées décider, mais l'État refuse de lâcher le pouvoir. Conséquence ?
Les décisions qui étaient prises n'étaient pas suivies d'exécution. Parce que la police municipale est sous la responsabilité directe du pouvoir central du ministère de l'Intérieur. Ce que je n'ai pas accepté, c'est que toute décision ne soit pas exécutée. Ou soit exécutée à la tête du client. Je parle de clientélisme. Ben, ça a été le cas. Ça, c'est une frustration inimaginable. Ah, excusez-moi.
Simple exemple. Le maire décide de faire démolir une construction illégale. Si le propriétaire est proche du pouvoir central, la maison restera là. En clair, le maire doit se résoudre à être une marionnette.
Quand ça s'est mis à bien travailler avec le chef de la police municipale, puisqu'on se voyait chaque vendredi, le mec, il a sauté. Le receveur des impôts, qui est une dame, psychologie, c'est bien pour recevoir des impôts, elle a aussi sauté. À la longue, c'est devenu dangereux. Qu'est-ce qu'on fout dans cette galère ? Tu sers juste à signer, mais tes décisions ne sont pas appliquées, réagis, fous le camp, ne les laisse pas t'utiliser et utiliser ton nom. Qu'est-ce qui a fait que le système d'année est explosé ? C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'appellation qui s'est sentie frustrée, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres. Ben c'est ce qu'on est en train de vivre grandeur nature aujourd'hui aussi. C'est clair, net et précis, que ça a explosé en matière de clientélisme et de passe-droit. Est-ce que le pouvoir central a une part de responsabilité énorme ? Incontestablement.
Autour de cette table de café, les municipalités et ce qu'on en attendait ne sont même plus un sujet de conversation. On oscille entre déception et écœurement.
On a eu des maires élus, c'est vrai, c'est bien. On est content pour le principe. Mais on n'a pas des résultats.
Peut-être qu'il nous faut un peu plus de temps.
Regardez, toutes les voitures sont stationnées ici. Alors qu'il est interdit de stationner là. La municipalité n'est pas à l'écoute de la population. On ne pourra jamais y arriver. Voilà.
Chez bon nombre, la frustration se transforme en défiance.
Ce sont des voleurs. C'est ça le problème.
La vie est devenue trop chère. Ils ne gèrent pas, ils ne font pas les contrôles. On souffre, c'est ça le problème. Le maire, il est relié avec d'autres gens qui travaillent pour leurs propres intérêts. La corruption, c'est énorme.
Les citoyens sont frustrés ou carrément écœurés. Aucun ne l'admet au micro, mais pratiquement personne ne paie ses impôts communaux. Ce qui ne fait pas l'affaire d'Ayed Bayous, madame le maire de Carthage, autre commune, même problème. Ce soir, elle réunit le conseil au menu. Comment éviter que la commune soit privée d'électricité, les rues plongées dans le noir, c'est le risque désormais. L'administration n'a pas réglé ses factures. Sa commune, l'une des plus riches du pays, est à sec.
L'année dernière, quand nous sommes arrivés, on a trouvé un taux de recouvrement de 35% à peu près.
À son entrée en fonction, sa première décision en tant que maire a été de ne pas se verser de salaire.
Quand j'ai vu que le budget de la municipalité il était vraiment catastrophique, c'est-à-dire... Donc j'ai préféré garder ma retraite et ne pas toucher au budget de la municipalité. Si j'aurais fait le contraire, j'aurais été comme quelqu'un d'égoïste, quoi.
Démissionner, elle aussi se pose la question.
Bon, le jour où peut-être ça retentirait sur ma santé, là peut-être je partirai. Mais pour le moment, tant que j'arrive à le faire tous les jours, tous les matins, je résiste, je reste. J'essaie de travailler, j'essaie de faire ce que je peux. Même si c'est 10% de ce que je dois faire, mais je continuerai à le faire. Ça, je me dis, enfin, à chaque fois, le matin, quand je me réveille, je me dis, Haït, il te reste encore tant de mois, tant de jours, tant d'années. Donc.
Les prochaines élections municipales ont lieu dans 3 ans. Le risque que les maires capables se découragent et que les citoyens, eux, ne votent pas.
Voilà. J'ai décidé de ne plus voter. Le programme qu'on m'a proposé ne sera jamais appliqué. C'est cette corruption qui me dérange terriblement.
Je ne vais pas ni voter pour la municipalité, mais pour, même pour le président. La démocratie, c'est pas ça la démocratie en Tunisie.
La décentralisation, pilier de cette démocratie qui reste à bâtir en Tunisie, a 3 ans. 3 ans pour commencer à faire ses preuves avant les prochaines élections.
Maureen Mercier à Tunis pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Nous voilà partis vers les confidences sonores d'Un jour dans le monde. Et cette dernière semaine d'Un jour dans le monde, donc les journaux sonores que nous offrent ces jeunes gens du monde entier depuis le début de la crise du Covid. Caroline Gillet a décidé de nous faire réécouter un certain nombre de ces jeunes gens que nous avons rencontrés au fil de ces semaines-là. On est heureux de retrouver Cécile sur son île de Pâques. Avant le confinement, elle dépendait beaucoup du tourisme. Depuis 2 mois, il n'y a plus d'avions du continent. Il y a aussi très peu de ravitaillement. Mais le maire a réorienté les budgets de l'île pour créer 500 emplois, désherber, repeindre, refaire les routes, travailler sur les problèmes de violence domestique aussi. Revoici donc notre amie Cécile.
Ce matin, j'ai rendez-vous au centre de la mujer, au centre des femmes, parce qu'avec la quarantaine, à peu près donc 2 mois et demi d'enfermement à la maison, ils ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'appels de femmes et qui dénoncent les violences à l'intérieur de la maison. Bien, bien, grâce. Et c'est depuis la pandémie. Ils me demandent de travailler sur un fascicule, un livre, quelque chose où on puisse aborder ces thèmes, que chaque enfant puisse repartir avec un petit livre, l'emmener à la maison et en discuter avec ses parents. Pour rentrer 30 par 30 les gens dans l'école. Alors.
Oh maman, ils nous ont donné des pommes de terre,
oui,
des pommes et des oignons.
Bon, ça très bien. Voilà. Et on s'assoit, on rentre à la maison. On rentre là, on est à la maison. C'est un drôle de sentiment quand même de faire la file d'attente pour avoir à manger. Depuis mars, c'est impressionnant les changements, les bouleversements sociaux qu'on est en train de vivre, nous, sur l'île. Tu passes d'une vie avec un travail, une vie organisée, l'école, on rentre, puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et puis finalement, c'est l'État qui te maintient. La semaine prochaine, je vais avoir une aide de la part de la mairie. Comme je me suis séparée, moi, étrangère, j'ai pas le droit à une terre. C'est le principe ici, on n'a pas le droit à une terre. Donc je suis obligée de demander aux biens nationaux et au Conseil des Anciens de bien vouloir octroyer une terre à mes filles pour que mes filles puissent vivre ici. Puisque comme je n'ai pas de rentrée d'argent, je ne peux pas louer de maison. Et tout est un cercle vicieux, en fait. Comment tout d'un coup, tu tombes d'une vie normale à une vie où tu es obligé de demander, d'aller dans les bureaux et demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est autonome, finalement, quoi. On a ce qu'on a, on a ce qu'on gagne. C'est très difficile de vivre de l'aide. Psychologiquement, c'est très difficile. Se sentir étranger quelque part, mais c'est très difficile d'être étranger. Faut pas croire. Aïe, aïe, aïe. C'est bizarre la vie quand même.
Elle donne beaucoup d'elle-même, Cécile Ripoll. On la remercie vraiment du fond du cœur. On la retrouvera demain. D'ailleurs, elle nous racontera son petit boulot de peintre en bâtiment, sa visite au site archéologique de l'île de Pâques aussi. Et s'il y avait d'ailleurs un lien entre nos débats, nos déboulonnages d'aujourd'hui et ce qui s'est arrêté soudainement dans la construction des mélodies géants de symboles de Lille, on verra ça demain. Donc merci encore une fois, évidemment, à Caroline Gillet, Le Monde selon Trump et Jean Marfour et Le Monde d'après, c'est à suivre. Voici Rodriguez, Sugarman sur France Inter.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Comme son nom l'indique, Sugarman Rodriguez sur France Inter.
France Inter, un jour dans le monde. That information that was
false and fake. Le Monde selon Trump, signé ce soir par Loïc Lory. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
Un week-end à oublier pour le président américain. Il y a eu samedi donc ce meeting raté à Tulsa, on y reviendra dans un instant. Et puis hier soir, l'interview de John Bolton, son livre sur Trump dont les bonnes feuilles ont déjà fait le tour du monde, sort donc chez vous officiellement demain Loïc.
Oui, absolument. Et Donald Trump n'est pas content. Il s'est encore défoulé sur Twitter ce matin. Je lui ai donné sa chance à lui qui était mal aimé, considéré comme un raté, un taré. Il s'est avéré être grossièrement incompétent et menteur. Conclusion du président Fabienne. On verra ce qu'en dit le juge. Donald Trump, en effet, accuse John Bolton de divulguer dans ce livre des informations classées secret défense. L'ouvrage sera disponible demain. 200 000 copies ont été distribuées. Et cela pourrait coûter cher à l'ex-conseiller puisqu'un juge fédéral a déjà dit que son ouvrage mettait le pays en danger. Mais ce n'est sans doute pas tant ça que les critiques personnelles qui ont rendu Donald Trump fou de rage. John Bolton était hier soir donc sur la chaîne ABC.
Je ne crois pas qu'il soit fait pour ça. Il n'a pas les compétences pour une telle charge. Vraiment, je n'ai pas pu discerner chez lui un seul principe qui le guiderait, excepté tout ce qui serait favorable à sa réélection. Beaucoup se sont plaints de son manque de concentration, mais quand il s'agit de sa réélection, je vous assure que sa concentration est infinie. Dommage que ce ne soit pas le cas lorsqu'il s'agit de sécurité nationale.
Voilà, mais la chance peut-être de Donald Trump, c'est que John Bolton n'est pas son ex-conseiller le moins controversé lui aussi. Et critiquer un menteur, un traître, imbu de lui-même, affirme des membres ou d'ex-membres du gouvernement. On peut aussi s'interroger sur ses motivations. Pourquoi sort-il ce livre plutôt que d'avoir témoigné lors du fameux procès en destitution du président? Il s'embrouille un peu sur la réponse, mais promet que ce n'est pas pour l'argent.
Alors, livre à paraître demain, en tout cas chez vous aux États-Unis, on verra bien ce qui se passera derrière. Avant cela, ce même week-end, Loïc, il y avait eu Tulsa, le fameux meeting raté.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est un lundi de réflexion à la Maison-Blanche après ce fiasco. L'entourage du président lui conseillerait d'abandonner les gros rassemblements qu'il aime tant. Encore faut-il le convaincre, bien sûr, et la débâcle de Tulsa aura peut-être cet effet. Certains ont vu Donald Trump foudrage, lit-on aujourd'hui dans les journaux, foudrage dans les coulisses face à cette salle à moitié vide. Et parmi les raisons de cette débâcle, certains avancent une action des fans de K-pop, la pop musique sud-coréenne et des utilisateurs du réseau social TikTok. Ils auraient réservé des places par centaines de milliers pour ce meeting, mais bien sûr sans se déplacer. Une grand-mère, Marie Jo Lop, a posté cette vidéo sur TikTok il y a quelques jours.
It's two free tickets per cell phone number.
On peut avoir deux billets gratuits par numéro de téléphone. Ils vous envoient un code, vous confirmez et les billets sont réservés. Alors voilà ce que je propose. Tous ceux qui veulent voir cette salle de 19 000 places à moitié ou totalement vide, allez prendre des billets et laissez le seul sur scène. Vous en dites quoi?
Alors, une vidéo qui a été vue près de 2 millions de fois. Oui, certains absolument. Démocrates même se sont réjouis de ce militantisme numérique.
Oui, comme la très à gauche et très en vue Alexandria Ocasio-Cortez, vous avez été battue, dit-elle, par des adolescents sur TikTok. Il y a du vrai. Hein. Brad Parscale, le directeur de campagne de Donald Trump, s'est vanté ces derniers jours d'avoir enregistré 1 million de réservations pour ce fameux meeting. L'histoire, toutefois, est bien sûr un peu trop belle. Si le meeting a été raté, c'est sans doute parce que l'inquiétude autour du coronavirus, même chez les supporters de Donald Trump, est bien présente. Et puis, l'autre facteur plus préoccupant, c'est aussi parce que le président a vu sa popularité décroître ces dernières semaines. 120 000 morts, bien sûr, du coronavirus. Fabienne, un mois de manifestation antiraciste. L'élection est dans moins de 5 mois désormais et Donald Trump n'est pas au mieux.
Alors, 5 mois, c'est encore très très long. Merci beaucoup, Loïc Laurie, avec nous depuis New York.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
Ce soir, Jean-Marc, vous nous emmenez dans un pays dont on ne parle jamais. La Biélorussie, c'est tout à l'est de l'Europe, entre la Pologne, l'Ukraine et la Russie. C'est sans doute la dernière vraie dictature en place sur le continent européen. Et à un mois et demi de l'élection présidentielle, la contestation gagne les villes. C'est le signe que tout peut arriver même le meilleur et c'est votre monde d'après.
Oui, c'est un peu le soulèvement qu'on n'attendait plus dans ce pays de 10 millions d'habitants, grand trou noir de la démocratie en Europe, dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko. Et on pourrait appeler ça les tongs contre le cafard, vous allez comprendre.
Oui,
tout a commencé il y a quelques semaines. L'un des rares opposants, le blogueur Sergueï Tikhanovski, publie plusieurs vidéos appelant à profiter du scrutin présidentiel du 9 août prochain pour dire, je cite, stop au cafard, c'est-à-dire sous-entendu stop à Loukachenko. Les signatures se multiplient alors pour rendre possible plusieurs candidatures d'opposition, notamment celle de Tikhanovski et celle d'un ancien banquier, Viktor Babarika. En face, le dictateur ne reste pas inactif, on s'en doute, il fait arrêter Tikhanovski, puis plus récemment Babarika, en les faisant accuser de corruption. Et dans plusieurs villes, en particulier la capitale Minsk, les habitants descendent alors dans la rue, plusieurs jours de suite la semaine dernière, pour nombre d'entre eux, en brandissant des tongs, en faisant mine d'écraser le cafard. Vendredi, ils composent même une étonnante chaîne humaine sur plusieurs kilomètres pour éviter la répression. Ils se tiennent simplement côte à côte, comme ça, immobiles, le long des avenues. Une révolution silencieuse avec les pieds. Vendredi, le pouvoir arrête 140 personnes. Peine perdue, samedi avant-hier, nouveau rassemblement.
Et il y a un lien avec l'épidémie de coronavirus.
Oui, c'est intéressant. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Officiellement, le pays compte 59 000 cas et seulement 350 morts. Mais la réalité est sans doute très supérieure vu que de nombreux décès sont dissimulés sous le vocable pudique de maladie pulmonaire. Et surtout, Loukachenko a traité le sujet avec désinvolture, déni, on dirait Bolsonaro un peu. Jusqu'à la fin mars, tout est resté ouvert. Les écoles, les commerces, les restaurants, jusqu'au championnat de foot qui est demeuré le dernier en activité en Europe. Et puis, le président potentat a fait le malin en vantant les mérites face à l'épidémie des bains de vapeur, de la vodka et enfin du hockey sur glace. Interviewé dans une patinoire en tenue de hockey, il adore le hockey, hein, il s'est exclamé « Une patinoire, c'est un frigo, pas de risque de virus ici ». Ça n'a pas suffi. La population a compris que le président lui racontait n'importe quoi. Le port du masque est apparu dans les lieux publics. Certains habitants ont fui vers les campagnes. Même les médias d'État ont commencé à faire des reportages sur l'épidémie. Donc cet épisode le démontre. Face à une crise aussi sévère que celle du coronavirus, on peut se retrouver rattrapé par ces mensonges, même en dictature.
Et alors donc, Jean-Marc, la suite, c'est quoi? Parce que c'est quand même un endroit très très particulier,
oui,
la Biélorussie.
Oui. Hein. Le temps y est à l'arrêt depuis 26 ans. Le premier succès électoral de Loukachenko, élu alors président avec 80% des voix, chercher l'erreur. Depuis, il a déjà été réélu 4 fois dans des conditions systématiquement suspectes. La Biélorussie comme on l'appelle en France, hein, le nom officiel c'est le Bélarus. Mmh. C'est un peu la Corée du Nord de l'Europe dans une version plus soft, un monde suspendu, à l'écart, oublié de tous. Loukachenko contrôle tous les pouvoirs, censure les médias, augmente les retraites avant chaque élection, puis arrête les opposants après chaque scrutin. Mais cette fois-ci, c'est donc pas une lettre à la poste. Les jeunes semblent décidés à contester ouvertement le dictateur. Signe que le pouvoir a peur, les arrestations ont donc lieu cette fois avant le vote. Loukachenko traite les opposants à la télé, je cite, de « cochons et de gros bourgeois ». Il accuse désormais Moscou, son ancien allié, de vouloir le renverser. Alors même si les forces de sécurité lui demeurent fidèles, ça sent quand même un peu le roussi. Sait-on jamais, le scrutin du 9 août sera peut-être le champ du cygne pour ce potentat qui veut décrocher un sixième mandat consécutif. Mais toutes les dictatures ont une fin.
Absolument. Jean-Marc Four et le monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour. Merci de partager votre soirée avec nous. Ne bougez pas.